RFI.
Mondial Sport sur RFI. Thomas de Saint-Léger.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous aimez le sport, vous êtes au bon endroit. Nous sommes ensemble pour 30 minutes sans temps mort. C'est promis au programme, un tour de la planète foot avec trois arrêts. En France, les résultats, les réactions du soir. En Allemagne, un focus sur le tube de l'automne, le Borussia Dortmund de Lucien Favre. Et puis en Égypte, entretien avec un pharaon à l'accent espagnol, le nouveau sélectionneur, le Mexicain Javier Aguirre. Dans cette émission aussi, une page cyclisme des contours du Tour de France 2019. Aux routes du Faso, on a mis ce soir le gros braquet pour vous permettre de ne rien rater. On parlera enfin de handball et d'une rivalité entre les frères ennemis du Caire, le Zamalek et Al Ahly, deux équipes qui se disputeront demain à Abidjan le titre de champion d'Afrique. Allez, Mondial Sport, c'est parti. J'accueille d'abord dans ce studio Tom Rossi pour parler de foot en France, la 11e journée de Ligue 1. Bonsoir Tom.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Après le match nul entre Saint-Etienne et Nîmes, un partout hier soir, 6 matchs étaient au programme ce samedi et décidément, Monaco n'y arrive pas.
Les Monégasques affrontaient Dijon. Avant ce match, les deux équipes restaient sur 4 défaites de suite en Ligue 1. Et finalement, aucune ne s'est imposée. Score final, 2 partout. Monaco était mené 2-1 et a réussi à revenir grâce à une tête de Camille Glick. Pour son retour à Louis II, 19 ans après, Thierry Henry s'attendait à un autre résultat. On écoute le coach monégasque au micro de beIN Sport.
Je sais pas si c'était Bruges ou je sais pas s'il y avait un peu de fatigue, certainement. Mais bon, ne cherchons pas d'excuses. Dijon nous a bien quand même fait courir pendant une heure, même si je trouve qu'on les a un peu laissés. Le positif, c'est qu'on n'est pas lâché, qu'on est revenu au score. Après, bon, de deux, c'est pas ce qu'on cherchait, surtout contre Dijon, qui est vraiment juste au-dessus de nous. Après, voilà. J'espère qu'à un moment donné aussi, ça va sourire de notre côté.
Monaco et Thierry Henry désormais à la dernière place, toujours plutôt à cette dernière place, égalité de points avec Guingamp. En fait, les Monégasques sont 19e, les Guingampais dernier, ça se joue à la différence de but.
Exactement, les Guingampais qui ont été tenus en échec un partout à domicile par Strasbourg. Égalisation strasbourgeoise du Malien Lucien Zoé à la 89e minute. Et dans ce bas de tableau, le grand gagnant du soir, Thomas, c'est le FC Nantes de Vahid Halilhodžić, vainqueur 2-1 à Amiens. Les Nantais quittent la zone rouge remplacés par leurs adversaires du soir.
On va jeter un coup d'œil un peu plus, on va prendre un peu de hauteur, on va dire, dans ce classement. Lille et Montpellier qui, eux, n'en finissent plus de gagner.
Quatrième victoire de suite pour les Lillois ce samedi. Les coéquipiers de Pépé se sont imposés 1-0 face à Caen et prennent seuls la deuxième place du classement devant des Montpellierains intraitables à Toulouse. Score final 3-0. Les hommes de Derzakarian chipent la troisième place à Lyon qui, plus tôt dans l'après-midi, est allé battre Angers 2-1. Les Lyonnais menaient 2-0 et les Angevins ont réduit le score, un but qui agace fortement le gardien lyonnais Anthony Lopez au micro de Canal+.
On doit se rendre la fin de match facile, surtout qu'on met le deuxième. On doit essayer de garder ce résultat et essayer de faire tourner le ballon tout simplement. Voilà, on n'a pas su le faire, on prend directement le but derrière. Et voilà, on a chaud jusqu'à la fin. Quoi. C'est dommage, parce que bon, à l'arrivée, on prend quand même les 3 points, mais c'est un match, on doit pas prendre de but.
Demain, évidemment, ne manquez pas le classique de la Ligue 1. Marseille reçoit le Paris Saint-Germain. Coup d'envoi à 20h, temps universel.
On ne le manquera pas puisque Stéphane Burgat sera en direct du stade Vélodrome dans Mondial Sport pour nous faire vivre en fil rouge la fin de cette rencontre du classique de la Ligue 1. Merci Tom. Le traditionnel Tour d'Europe maintenant, étape ce soir en Allemagne pour s'intéresser à l'équipe frisson du début de saison. Première de Bundesliga, première de sa poule en Ligue des Champions, vainqueur 4-0 de l'Atlético de Madrid mercredi, une âme offensive, des joueurs jeunes, spectaculaires. L'Allemagne et l'Europe sous le charme, je parle bien sûr du Borussia Dortmund. Et lui, en parlant encore mieux, Julien Méchaussier, notre correspondant outre-Rhin, est au bout du fil. Bonsoir Julien.
Bonsoir Thomas, bonsoir à toutes et à tous.
Alors Julien, c'est ce qu'on appelle avoir du flair. Le jour où on décide de faire dans Mondial Sport un coup de projecteur sur cette équipe du Borussia Dortmund, eh bien évidemment, elle cale.
Ouais, match nul, 2-2 cet après-midi, c'était à domicile, hein, au Signal Iduna Park, face au Hertha Berlin, une des bonnes surprises hein, de ce début de Bundesliga. Les jaunes et noirs portés, une fois de plus, hein, par leur prodige anglais de 18 ans, Jadon Sancho, qui a claqué son premier doublé en championnat, et cela deux semaines après sa première sélection avec l'Angleterre, ça va très très vite pour lui. Mais le Borussia est tombé sur l'inépuisable Salomon Kalou, l'Ivoirien, 33 ans, lui aussi, auteur d'un doublé, avec une égalisation à la dernière minute sur pénalty. Mais pas de casse, hein, cependant, au classement, Thomas, puisque malgré la victoire du Bayern face à Mayence cet après-midi également, eh bien Dortmund reste en tête avec 2 points d'avance sur les Bavarois.
21 points déjà pour le Borussia en 9 matchs. Le Borussia invaincu en championnat, invaincu aussi et surtout en Ligue des Champions avec ce bilan impressionnant. 3 matchs, 3 victoires, 0 but encaissé, Julien.
Oui, il y a eu d'abord ces 2 victoires hein, face à Bruges, 1-0, et puis Monaco, 3-0. Et même si le Borussia fait un début de championnat quasiment parfait, comme vous l'avez dit, hein, on attendait ici avec impatience ce choc du groupe A face à l'Atlético en Ligue des Champions, donc pour savoir hein, tout simplement ce que vaut ce BVB avec le Suisse Lucien Favre sur le banc, et puis pas mal hein, de nouveaux joueurs, de nouveaux visages, et on n'a pas été déçus, hein, une victoire 4-0 face à ce qu'on présente souvent comme l'une des meilleures défenses d'Europe. Et puis surtout hein, cette impression qu'il ne peut rien arriver à cette équipe et qu'elle a même le potentiel, hein, Thomas, pour faire de grandes choses cette saison et puis nous faire revivre ces folles soirées d'il y a quelques années.
Vous évoquez, Julien, ces nouveaux visages. On pense évidemment à Jadon Sancho, mais aussi à Paco Alcácer, l'Espagnol, ou encore Axel Witsel. Ils se sont tous, ces garçons, rapidement imposés.
Oui, on va commencer par Paco Alcácer, hein, prêté par Barcelone, meilleur buteur avec Luka Jovic de Francfort sur cette Bundesliga. L'Espagnol, hein, il en est déjà à 7 buts, mais c'est en seulement 4 matchs et sans avoir démarré une seule fois titulaire. Blessé hein, actuellement à la cuisse, il n'était même pas présent pour la réception de l'Atlético, ce qui n'a pas empêché donc hein, le BVB d'en mettre 4 à Jan Oblak. Et puis il y a cette jeunesse triomphante emmenée par la sensation de Jadon Sancho. Donc, mais derrière, il y en a plein d'autres. Hein. Il y a aussi le Danois Jakob Brun Larsen, 21 ans, l'Américain Christian Pulisic, 20 ans, ou encore Achraf Hakimi, le Marocain de 19 ans, prêté par le Real Madrid et auteur hein, d'un match somptueux avec 2 passes décisives mercredi au poste de latéral gauche. Et puis, il ne faut pas oublier, hein, Thomas, cette défense 100% française qui s'impose petit à petit au fil des matchs. Abdou Diallo, 22 ans, formé à Monaco et parti dans la Roure après une grosse saison à Mayence l'an passé, et Dan-Axel Zagadou, 19 ans, est chippé à l'équipe réserve du PSG. Et toute cette jeunesse, hein, elle est parfaitement encadrée par des joueurs plus expérimentés. On peut citer l'ancien hein, Marco Reus, enfin débarrassé de ses blessures. Et puis le Belge, Axel Witsel, de retour de Chine, est monstrueux hein, au milieu de terrain dans l'entrejeu du Borussia Dortmund.
Une partition bien écrite et à la baguette, Julien, un homme que l'on connaît bien en France, Lucien Favre, ancien entraîneur de Nice.
Ouais, le Suisse qu'on connaît bien aussi en Allemagne, hein, qui avait laissé de bons souvenirs en Bundesliga, que ce soit au Hertha Berlin qu'il avait ramené en Coupe d'Europe ou à l'autre Borussia Mönchengladbach avant de partir sur la Côte d'Azur. Alors appelez-le comme vous voulez, hein, Thomas, Lucien le magicien, Lucien le tacticien, mais si ce Borussia en est à ce niveau aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à lui. Il y a tous ces jeunes dont on a parlé qu'il a imposé. Et puis peut-être le plus impressionnant, il a su relancer petit à petit Mario Götze, disparu des radars depuis plusieurs années et qu'on pensait même perdu hein, pour le football. Et mercredi, hein, il fait entrer Rafael Guerreiro face à l'Atlético au poste de milieu offensif. Et bien, l'international portugais met un doublé pour sa toute première apparition cette saison. Et puis surtout, hein, il a ramené cette folie qui a fait la marque de fabrique du BVB ces dernières saisons. On pense hein, à ce match fou face à Augsbourg dont on parle encore aujourd'hui en Allemagne. C'était il y a 2 journées, remporté 4-3.
Dortmund leader donc de Bundesliga. Merci Julien Méchaussier. Bonne soirée. En Angleterre, c'est Liverpool qui mène la danse. On va en parler. Mais d'abord, cette nouvelle dramatique relayée par les médias anglais depuis le début de soirée. L'hélicoptère des dirigeants du club de Leicester s'est écrasé tout près du stade du club. Pas plus d'informations à l'heure actuelle sur le bilan et l'identité des victimes. Sur le plan sportif, donc les Reds de Liverpool, je le disais, sont premiers après une victoire 4-1 sur sur Cardiff. Un but pour Mo Salah, l'Égyptien. Deux pour Sadio Mané, le Sénégalais. Manchester City pointe à trois longueurs avec un match en moins. Match prévu lundi à Tottenham. Sacré choc en perspective du choc et du chic aussi demain en Espagne avec le fameux Classico FC Barcelone-Real Madrid. Le premier depuis 2007 sans Messi ni Ronaldo sur la pelouse. On en reparlera bien sûr demain. Aujourd'hui, l'Atlético de Madrid s'est provisoirement emparé de la tête du classement en battant la Real Sociedad 2-0. Et puis un mot du championnat d'Italie, sans surprise, la Juventus Turin gagne encore. Succès 2-1 à Empoli, doublé d'un certain Cristiano Ronaldo. Et un certain Antoine Grenier m'a rejoint dans ce studio. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Avec
bonsoir
vous...
Thomas.
Et à tous aussi.
Et à tous évidemment.
On va parler de foot africain avec vous, plus précisément de l'Égypte et d'une nomination début août, celle de Javier Aguirre. Il remplaçait alors Hector Cooper, ça avait un petit peu surpris à l'époque pour succéder à l'Argentin finaliste de la CAN 2017 et qui a ramené l'Égypte en Coupe du Monde pour la première fois depuis 1990. La fédération égyptienne avait donc jeté son dévolu sur ce Mexicain qui n'avait dirigé jusque-là que deux autres sélections, le Mexique justement et le Japon, bien éloigné donc des terrains africains. Mais Antoine, la greffe semble prendre.
Ben oui, parce que le technicien passait également par l'Espagne à l'Atlético Madrid, où l'Espagnol Barcelone est invaincu à la tête des Pharaons. Trois matchs, trois victoires et des belles victoires, hein, larges s'il vous plaît, surtout contre le Niger, 6-0, et puis 4-1, puis 2-0 face à l'Iswatini, l'ex-Swaziland. Bref, effacer le traumatisme des trois matchs perdus à la Coupe du Monde en Russie, pas mal, en aussi peu de temps, et d'autant que Javier Aguirre l'avouait lui-même, l'Égypte lui était largement inconnue à son arrivée, c'est ce qu'il a confié à RFI.
Je connaissais bien sûr Mohamed Salah. Zamalek et Al Ahly font partie des meilleurs clubs d'Afrique. Ils ont déjà joué contre le Real Madrid ou Barcelone ou dans des compétitions internationales de premier plan. Et cela, forcément, donne de l'éclat au championnat égyptien. Mais bon, à part ça, je ne connaissais pas grand-chose. Après, j'ai suivi, bien entendu, tous leurs matchs à la Coupe du Monde. J'avais regardé aussi le match de préparation qu'ils avaient disputé contre le Portugal et qu'ils avaient perdu dans les dernières secondes sur un doublé de Cristiano Ronaldo. Je m'étais rendu à la Coupe du Monde en Russie en tant que consultant de la télévision mexicaine. J'ai été approché par quelques équipes nationales, dont l'Égypte. J'ai vu qu'il y avait des joueurs de qualité, dont beaucoup évoluant à l'étranger. J'ai donc été intéressé car c'était du sérieux, avec un travail de fond fait par Hector Cooper pendant 4 années. Les bases étaient solides et cela m'a décidé à venir m'installer au Caire.
Un cas à gérer, Antoine, pour Javier Aguirre, le cas Mohamed Salah.
La star égyptienne, symbole un petit peu des errements égyptiens lors du mondial russe, entre blessures avant la Coupe du Monde, en finale de la Ligue des Champions, on s'en souvient très bien, conflit avec sa fédération pour une question de sponsoring, et photos avec le très controversé président de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov. Bref, l'été de Mohamed Salah avait été plutôt mouvementé. Sans doute l'a-t-il un peu payé en début de saison avec Liverpool, en tout cas jusqu'à mi-octobre. Salah reste maintenant sur 5 buts en 4 matchs avec Liverpool, donc ça va beaucoup mieux. Et avec ses près de 40 buts en équipe nationale, il reste évidemment incontournable aux yeux de Javier Aguirre.
Quand on parle de l'équipe d'Égypte, on pense d'abord à Mohamed Salah. L'année dernière, il a véritablement explosé, s'imposant comme le meilleur joueur de la Première Ligue, qui est le meilleur championnat au monde, ou au moins un des trois meilleurs sans aucun doute. Et son aura a logiquement profité à toute l'équipe. Je ne saurais pas vous dire ce qu'il représente en Égypte, car à chaque fois qu'il vient ici, en général, une fois par mois, les gens tombent carrément à ses pieds. Il y a foule à chaque fois pour l'apercevoir, que ce soit à l'aéroport ou à la descente du car de l'équipe. C'est un personnage qui a une grande importance dans la société égyptienne. Et il faut reconnaître que Salah assume ce rôle avec beaucoup de naturel et de simplicité, tout en veillant à ne pas sombrer devant tant de sollicitations. Il faut veiller à faire très attention pour qu'il se sente bien.
mettre Salah dans les meilleures dispositions, donc en portant une attention particulière à ses performances.
Caracuré le rappelle, la prochaine CAN se déroulera en été, alors il faudra adapter la préparation des joueurs en fonction de ces nouvelles dates, et puis Mohamed Salah est tellement important dans ce collectif qu'il faut veiller à ce qu'il se sente bien. Un défi pour le sélectionneur égyptien qui pourrait ramener la CAN à la maison, hein, comme on dit ici en France, ramener la CAN en Égypte, 9 ans après le dernier succès des Pharaons.
Nous sommes très heureux car 3 matchs nous ont suffi pour nous qualifier et l'équipe tourne bien. Il faut aller par étapes. Pour le moment, je ne pense qu'à la CAN et je ne veux pas regarder plus loin. Il faudra continuer à progresser dans le jeu avec l'objectif de remporter cette CAN. Nous n'envisageons rien d'autre que la victoire finale. Avec un palmarès comme le nôtre, toute autre performance serait décevante. Nous sommes heureux d'avoir déjà notre ticket pour la phase finale et le temps sera très serré pour tout organiser. Les déplacements, les hôtels, les adversaires. Je ne veux pas dire que c'est désorganisé car ce retard répondait à une demande généralisée afin d'éviter que le calendrier éliminatoire de la CAN ne vienne perturber les équipes qui préparaient la dernière Coupe du Monde. Mais bien sûr que ça nous affecte.
Voilà les réalités africaines pour Javier Aguirre, interrogé par Christophe Jousset et notre collègue et ami Carlos Pizarro de l'antenne hispanique. Panophone de RFI, un entretien que vous pouvez également retrouver sur internet rfi.fr/Afrique.
Mondial Sport sur RFI.
En cyclisme, c'est un avant-goût de l'été. Au début de l'automne, la carte du Tour de France 2019 a été dévoilée jeudi dernier à Paris, en présence notamment d'une légende, Eddy Merckx, le cannibale à l'honneur puisqu'il fêtera l'an prochain les 50 ans de la première de ses 5 victoires sur la Grande Boucle. Alors, que retenir des contours du Tour? D'abord, un grand départ de Bruxelles, 3 étapes en Belgique, clin d'œil justement à Eddy Merckx. Ensuite, un parcours qui penche à l'est avec beaucoup de montagnes, 4 massifs à franchir, les Vosges, le massif central, les Pyrénées et enfin les Alpes. En tout, 30 ascensions de première, deuxième ou hors catégorie. Autre particularité, l'altitude, 5 arrivées au sommet, 7 cols à plus de 2000 mètres, ça s'annonce terrible. Le principal responsable de ce chantier, comme on dit dans le jargon cycliste, s'appelle Thierry Gouvenou, il est directeur technique du Tour de France. Farid Achache l'a rencontré cette semaine, écoutez.
C'est vrai qu'on a une édition qui va être marquée par la haute montagne. Hein. Tous ces cols au-dessus de 2000 mètres, ça va certainement marquer les organismes. Hein, parce qu'il faut savoir qu'avec plus on monte, moins il y a d'oxygène dans l'air. Et plus c'est difficile pour un sportif de fournir un effort. Et donc on aura 7 cols au-dessus des 2000 mètres. On ira même jusqu'à 2770 mètres dans l'Isran. Et tout ça, ça devrait peser sur le classement général final. Parce que certains types de coureurs ne sont pas adaptés à passer ces altitudes.
La plus dure, la montée la plus dure pour vous?
Oh, je crois que en termes de pourcentage et de placement dans le Tour de France, la vraie montée qui devrait créer le plus d'écart, c'est celle du Tourmalet, parce qu'elle est sur une étape courte. On a une arrivée au sommet, les pentes sont là, c'est une arrivée mythique. Et je crois que déjà au Tourmalet, on aura beaucoup d'écart de créer.
Les Alpes, un petit mot sur les Alpes.
Les Alpes, voilà, c'est 3 jours qui vont s'enchaîner dans les Alpes avec une première étape marathon où on va retrouver les grands classiques du Tour de France, que ce soit le col de Vars, l'Issoire, le Galibier. Cette étape marathon devrait user des organismes en dernière semaine du Tour. Et ensuite, derrière, on a 2 étapes beaucoup plus courtes avec aussi de la haute altitude. Et là, on devrait voir beaucoup de coureurs craquer.
Alors, comme on reste dans l'est de la France, on a tous les massifs. Comment on peut qualifier la moyenne montagne? Elle va apporter quoi, la moyenne montagne?
Déjà, elle arrivera rapidement. Dès le premier jeudi, on sera au premier sommet, à la planche des Belles Filles. Et je pense que déjà, dès le jeudi, on aura un aperçu des forces en présence du Tour de France. Et après, ce sera plutôt une gestion un peu des efforts. Mais c'est vrai que tout ce passage en moyenne montagne va faire qu'on devrait avoir des étapes beaucoup plus intenses, marquées par des attaques. Et je pense qu'on devrait avoir un tour assez dynamique.
La planche des Belles Filles, justement, est-ce que ça peut devenir un classique?
Oui, ça le devient. Hein. C'est la 4e fois qu'on y arrive en quelques temps. À chaque fois, il y a eu des vainqueurs très importants, de renom. Et placé comme c'est placé encore cette année, du moins en 2019, c'est sûr qu'elle sera encore marquante. Et le nom aussi sonne bien et tout est fait pour que, dans l'esprit des gens, ça devienne un classique.
Et rendez-vous précisément le 11 juillet 2019 pour cette première passe d'armes attendue du Tour 2019, l'étape donc de la planche des belles filles. Ce sera 5 jours après le grand départ de Bruxelles. Le cyclisme africain à présent, Antoine, le 31e Tour du Faso se déroule en ce moment et il est au Ghana, original, non?
Et pourquoi pas, surtout que ça porte chance aux coureurs burkinabés, Thomas, qui ont attendu de passer la frontière à l'occasion de la deuxième étape pour briller sur place à Bolgatanga, au Ghana. Donc on retrouve notre envoyé spécial, Eric Chorin. Bonsoir Eric.
Bonsoir Antoine, bonsoir à tous.
Eric, le Ghana a permis aux coureurs burkinabés de faire coup double, tout simplement. Victoire d'étape et maillot jaune.
Le maillot jaune pour le porteur du numéro 1, Mathias Sorgho, on y reviendra Antoine, et l'étape pour son compatriote de l'équipe de l'Ouest, Daouda Ouédraogo. Daouda Ouédraogo qui a réglé au sprint ce qu'il restait du peloton après 2 tours de circuit dans les rues de Bolgatanga. Une très belle victoire évidemment pour ce jeune coureur de 20 ans qui dispute tout simplement son premier tour du Faso, Daouda Ouédraogo.
C'est une belle victoire que le Burkina Faso a eu comme ça. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu ça. On espérait aussi avoir ça depuis hier. On a eu ça aujourd'hui.
Tu as battu les Européens aujourd'hui qui étaient bons au sprint hier.
Bon, c'est comme ça. Et hier, j'étais pas totalement en forme. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé que les jambes étaient bien. Et bon, j'ai tenté. Ça a réussi.
L'objectif pour toi maintenant, c'est quoi?
Bon, l'objectif pour moi, c'est d'avoir ce maillot jaune et pouvoir le gérer jusqu'à la fin du tour.
Daouda Ouédraogo à votre micro, Eric, après sa victoire d'étape. Mais pendant longtemps, 3 autres coureurs en ont rêvé de cette victoire à Bolgatanga.
Ces coureurs, Antoine, ce sont ceux qui ont tenté l'aventure incertaine de l'échappée fleuve peu après le départ de Manga, alors qu'il restait près de 150 km de course sous un soleil toujours aussi écrasant. Un Ivoirien en était, Souleymane Traoré, et 2 Burkinabés, Salifou Yarbanga de l'équipe du centre et surtout Seydou Bamogo de l'équipe nationale. Bamogo avait de très bonnes raisons de tenter l'aventure, lui qui pointait à la 5e place au classement général ce matin. En prenant les bonifications des 3 sprints intermédiaires, ce qu'il a fait à chaque fois, il pouvait rêver du maillot jaune à condition bien sûr d'être avec les meilleurs à l'arrivée, voire devant eux. Cela a très bien marché pendant un temps, les 3 hommes comptant plus de 6 minutes d'avance sur le peloton, mais les coéquipiers du Néerlandais Florian Smits, porteur du maillot jaune après sa victoire d'étape hier, ont commencé à rouler à 60 km du but, aidés par les Allemands, et tout ne s'est pas terminé exactement comme Seydou Bamogo l'avait prévu.
Hier j'étais un peu bien placé, donc aujourd'hui la stratégie était d'aller en échapper, essayer d'engranger des points au niveau des points chauds, et pourquoi pas faire l'arrivée finale en échappée pour essayer de gagner des minutes. Malheureusement, on a été pris à la dernière minute. Je salue au passage mon ami Yerbanga Salifou qui a vraiment donné le meilleur de lui-même pour m'accompagner dans cette aventure. Malheureusement, nous ne sommes pas arrivés. Mais heureusement, un Burkinabé a gagné et c'est un motif de satisfaction. Je remercie tout le monde.
Une victoire d'étape burkinabé et un gros travail effectivement des 3 coureurs qui étaient échappés, vous deux avec Salifou et le coureur ivoirien, hein, pour essayer de résister aux Hollandais.
Oui, effectivement, on a essayé de résister aux Hollandais. Donc on s'est battu, malheureusement, nous ne sommes pas arrivés au bout. On n'est pas déçus pour autant, on a gagné, c'est mission accomplie.
Et vous êtes très bien placé, quoi qu'il arrive au général, pour la suite, hein.
Bon, je ne sais pas, il va falloir que je voie d'abord les résultats. Ça a été un peu compliqué les derniers 10 km. J'ai essayé de suivre le groupe, mais ça a été un peu compliqué. Mais on verra ce que la rue du Tour nous réserve. Nous avons encore 8 étapes, donc c'est pas facile.
Oui, parce que Seydou Bamogo ne l'a pas eu finalement, ce maillot jaune, Eric.
Et non, le peloton a cassé hein, dans les tout derniers kilomètres et Bamogo n'a pas réussi à rester tout à fait avec les hommes de tête. Ce qu'a fait en revanche son coéquipier au sein de l'équipe nationale burkinabé, Mathias Sorgho, nouveau maillot jaune au 100e puisque l'Allemand Julian Hellmann est 2e dans la même seconde que lui. 3e place à 1 seconde pour le jeune Paul Daumont qui fut le grand animateur burkinabé de la première étape et qui était de nouveau avec les meilleurs sur la ligne. C'est d'où Bamogo, lui, est 4e à 2 secondes. Il a fallu sortir la calculette ce soir, vous l'avez compris, pour établir un classement général. On le retrouve quand même 3 Burkinabés dans les 5 premiers. Ça promet bien sûr pour la suite des opérations.
Merci Eric Chorin. Demain, vous revenez au pays des hommes intègres pour la 3e étape. 90 km entre Bolgatanga et Pau.
Il y a toujours du cyclisme à Pau, comme on dit.
Toujours.
Toujours, mais nous, en parlant de balle, tiens, Antoine, les championnats d'Afrique des clubs champions touchent à leur fin. C'est à Abidjan, demain, place au final, 100% angolaise chez les dames, 100% égyptienne chez les hommes, et une sacrée rivalité dans les deux cas.
Le Petro Atlético et le Primero de Agosto chez les femmes, deux clubs rivaux qui comptent parmi les plus titrés, 19 titres de championne d'Afrique des champions pour le Petro, record incontestable, 4 sacres pour le Primero, qui est le tenant du titre. Bref, sacrée rivalité, mais incomparable avec celle à l'œuvre chez les hommes. La finale opposera demain le Zamalek, tenant du trophée, à l'Al Ahly, deux clubs égyptiens, deux clubs kérotes, deux frères ennemis, surtout, comme a pu le constater depuis Abidjan, Youen Gourlet.
Hier soir, après sa victoire contre les Gabonais du JSK en demi, le Zamalek avait déjà la tête à la finale contre Al Ahly, un match devenu un classico entre les deux clubs du Caire qu'il faut remporter quoi qu'il arrive. Mostafa Dongol, l'arrière central du Zamalek.
Al Ahly, ce sont nos rivaux de toujours en Égypte. C'est un match important, non seulement parce que c'est la finale, mais aussi parce que c'est Al Ahly. La rivalité entre les deux clubs est tellement importante que peu importe le match, il faut gagner. C'est un match particulier pour tout le monde.
Mais dès qu'il s'agit d'en savoir un peu plus sur les relations qu'entretiennent les deux clubs, Hamada Abdelbari, le manager du Zamalek, n'est pas très patient.
We like to win.
Évidemment, on aime gagner. La coupe reviendra en Égypte. Merci beaucoup.
Thank you very much.
Pierre Lekakou, le speaker du tournoi, n'est pas surpris. Les clubs ne s'aiment pas beaucoup.
C'est un problème de leadership africain dans le handball. Donc, il y a toujours des tensions entre les deux clubs. Et c'est toujours un clash quand les deux se croisent.
Alors, pour comprendre un peu mieux cette rivalité historique, il faut faire retomber un peu la pression et profiter de la journée de repos. À l'INJS, l'Institut National de la Jeunesse et des Sports d'Abidjan, les handballeurs sont nourris, logés et blanchis. Les équipes de même nationalité vivent dans les mêmes locaux, mais pas les deux clubs égyptiens séparés d'environ 500 mètres dans le village. C'est une habitude, au football, au basket et au volleyball, Al Ahly et Zamalek se connaissent bien, mais s'évitent à chaque compétition. Ibrahim Koulibaly, président du comité d'organisation.
Chacun a son moyen de transport qui lui est attribué et chacun a son bâtiment. Au niveau de la restauration, on va envoyer d'abord un émissaire pour voir s'ils peuvent avoir un compartiment bien en haut à eux pour que vraiment ils puissent manger tranquillement, ou bien tantôt c'est des takeaways, c'est-à-dire des plats emportés. C'est par ces petits gestes-là qu'on arrive à comprendre que ces équipes ne tiennent pas à se retrouver sur le même palier pour manger ou pour discuter.
Ce samedi, les joueurs se reposent avant le derby. Ibrahim Almasri sort même en pyjama de sa chambre, il relativise cette rivalité. Les joueurs se connaissent bien, presque trop bien.
Nous avons aussi des amis au Zamalek, 6 ou 7 joueurs jouent dans l'équipe nationale. Chaque joueur connaît son homologue, il sait comment il joue, comment il tire. Chacun connaît les gardiens des autres équipes, donc ça s'annonce compliqué demain.
Ali Baba, c'est le surnom de l'interprète des équipes égyptiennes. Il a la chance de connaître l'ambiance particulière qui règne dans ces deux quartiers populaires du Caire.
Les quartiers, ils sont très bouillants. Ils sont très bouillants. Et puis, il y a beaucoup de la musique. C'est très animé. Et culturellement, c'est très chaud. Voilà. Quand vous arrivez d'un quartier à un autre, chaque quartier essaye un petit peu de fournir le meilleur accueil possible par rapport à l'autre.
Et ça ne devrait pas trop changer. Demain, les supporters égyptiens suivront ce match avec passion, mais à distance. Chaque classico est retransmis sur les chaînes nationales. Les vainqueurs remporteront le premier titre de la saison et seront, c'est certain, accueillis en héros.
Un reportage signé Youen Gourlet. Et puis notons qu'en marge de ces championnats d'Afrique des clubs champions, la Confédération africaine de hand en a profité pour annoncer les dates des prochaines compétitions pour les sélections nationales pour les années 2022 et 2024. 2022, la CAN masculine se déroulera au Maroc et celle des dames aura lieu au Sénégal. Pour 2024, c'est le Cap-Vert qui accueillera la CAN féminine et l'Algérie, celle des hommes. C'est l'inverse de ce qui avait été annoncé dans un premier temps. La CAB a rectifié, alors nous aussi.
C'est bien vu Antoine, merci. Quelques secondes encore pour vous donner des nouvelles du top 14. Le championnat de France de rugby, 8e journée. Clermont, le leader, a remporté le choc face au tenant du titre Castres avec la manière. Le score est sans appel, 41-6. Le Stade français reste deuxième après une victoire 25-20 sur Montpellier. Toulouse, troisième, s'est imposé à Perpignan 36-18 avec trois essais du jeune international Antoine Dupont. En ski, Tessa Worley, déjà en mode petite fusée, la française, a remporté tout à l'heure à Solden en Autriche le premier slalom. slalom géant de la saison, c'est sa 13e victoire en Coupe du Monde. La Formule 1, Lewis Hamilton peut s'assurer demain d'un 5e titre de champion du monde. Le Britannique devra terminer au pire 7e du Grand Prix du Mexique et ça ne s'annonce pas trop mal pour le pilote Mercedes. 3e sur la grille, l'Australien Daniel Ricciardo a signé la pole position. Et puis on connaît l'affiche de la finale du Masters féminin de tennis, ce sera Sloane Stephens, l'américaine, face à l'ukrainienne Elina Svitolina. Voilà, on est complet, on ferme, mais on se retrouve demain, 21h30, temps universel, pour une émission riche, en direct, en reportage, en analyse. Merci d'être fidèle au poste, merci à Valentin Vaner, le maître du temps. Bonne soirée sur RFI.